Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur souffle dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remoueront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles, où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous, comme si l'on m'était offert un édifice, sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.
Amis de la poésie, et de Radio Occitanie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors ce soir, nous avons la joie d'accueillir dans ce studio de la rue d'Assali, Monique Saint-Julia. Monique, bonsoir, merci beaucoup d'être venue depuis Revel, nous rejoindre ici pour parler de ton dernier livre de poésie, Un jour de plus à aimer, qui a paru aux éditions L'Air. Merci. Donc Monique, si tu le permets, auparavant, avant de parler de ce livre et d'une façon plus générale de tous les livres que tu as commis et de la poésie d'une façon plus globale, je voudrais faire simplement quelques annonces de la parution de quelques recueils de Roland Nadeau. Alors Roland Nadeau, il apparaît dans un des derniers numéros de la revue Comme en poésie, je crois que c'est le numéro 65 de mémoire. Dans ce numéro, c'est Jean-Pierre Le Sieur qui est à Hossegor. Jean-Pierre Le Sieur, donc un vieux de la vieille hein, aussi, qui publie depuis la fin des années 60 et qui est toujours aussi actif dans la diffusion de la poésie, qui fait partie de ces gens grâce auxquels la poésie a cette vie, est toujours aussi vivace. Et donc il parle de Roland Nadeau. J'ai donc demandé à Roland Nadeau de faire une émission avec lui. Nous aurons le plaisir de la réaliser, cette émission. Roland Nadeau en particulier a inauguré la Maison de la Poésie à Saint-Quentin en Yvelines. Il a inauguré il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, avec Jean Rousselot. Jean Rousselot, que tu as certainement connu, lu, qui a été un des poètes marquants des années 60-70, qui est toujours actif à 90 ans hein, et qui a inauguré donc avec ses 90 ans la maison de la poésie. Et malheureusement, cette maison de la poésie aujourd'hui a été fermée, tout simplement parce que l'on a considéré que elle n'était pas rentable. Voilà, il y a eu un audit, hein, un audit économique, et à la suite de cet audit, la nouvelle municipalité de Saint-Quentin a fermé la maison de la poésie. Voilà. Alors, ça introduit une chose, Roland Nadeau a été un des premiers à dénoncer cette situation, et puis à dire ça nous interroge quand même, parce que qu'est-ce que la poésie ? Nous aurons l'occasion donc de nous interroger ensemble, si tu le veux bien, Monique, là-dessus. Alors, Roland Nadeau publie un cadastre d'enfance et quelques-unes de ses parcelles aux éditions Henri, petites éditions. Donc, ouvrage très agréable, hein, les éditions Henri, très pertinentes pour la poésie. Donc, si je te conseille vivement de pouvoir faire appel à eux au besoin. Donc, de quoi s'agit-il dans ce livre, un cadastre d'enfance? Eh bien, entre cadastre et cadavre, enfant, je ne faisais pas différence. Ces deux mots m'étaient semblablement mystérieux, c'étaient tous deux des mots de grandes personnes. J'en vins un soir d'espoir rare à m'illuminer l'âme, à me faire Noël de mots, cadastre de cadavre, comme c'était beau. Plus tard, j'appris sa signification, cimetière. Voilà, ça donne un peu le ton. C'est dans la collection aux éditions Henri, La main au poète, dont nous aurons l'occasion d'en parler, mais je voulais d'ores et déjà le signaler. Ces petits livres de poésie coûtent 6 euros, ce qui est d'ailleurs donc très bon marché et très agréable, une édition aussi très agréable, qui n'est pas encombrante dans la bibliothèque. Et puis, les éditions Corpus, collection L'art du mot, publie toujours de Roland Nadeau, pour le réalirisme, hein, réalirisme, également. Alors, là, plutôt des réflexions. La poésie, par exemple, dit-il, alors n'est plus effectivement qu'un objet, tout juste bon pour les musées privés, des esthètes intellectualistes. Dès que la vie meurt, naissent les muséographes. Donc, ne pas mettre la poésie au musée, c'est-à-dire ne pas l'emprisonner dans quelque chose de fini. Et puis, gros texte, où il publie « Vivre quand même », parce que c'est comme ça, avec une illustration assez amusante, où on voit Masque à gaz, qui fait penser également, toi qui aimes beaucoup la nature, à une abeille aussi, hein, aux yeux d'une abeille. Bon, alors là, on retrouve un recueil de poésie assez classique. C'est donc aux éditions Gros Texte, pardon, et ça vous coûtera 8 euros. Voilà, je vais arrêter là, puisque tous ces renseignements seront sur notre site les-poètes.fr et fera l'objet d'un compte rendu, donc bientôt Roland Nadeau sur nos antennes. Monique Saint-Julia. Donc Monique Saint-Julia, nous avons eu le plaisir de faire une émission avec elle déjà, mais je m'aperçois que c'est assez loin, puisque cette émission a eu lieu le 14 mars 2013. 14 mars 2013, elle est toujours en ligne et vous pouvez toujours écouter cette émission. Donc les internautes peuvent l'écouter sur notre site les-poètes.fr en allant pour écouter les émissions et à l'année 2013. Donc vous aurez toujours le plaisir d'écouter Monique Saint-Julia. Alors Monique Saint-Julia, elle est poète, elle est peintre. Et d'ailleurs, on va voir que les deux sont très imbriqués également dans sa poésie. On va voir ça tout à l'heure. C'est une Catalane, hein, née en Roussillon, qui actuellement vit à Revel, donc dans le Lauragais, et qui a publié pour la première fois dans Entretien sur les êtres et les arts du regretté Jean Subervie et Jean Digot, qui animait à Rodez ses éditions Subervie. Hein. Et qui avait créé le prix Antonin Artaud, qui permettait tous les ans quand même un rassemblement de poètes. Et en 58, donc, ces entretiens ont été publiés donc, en 1958, puis Elle récidive en 1960 et 1962. Et donc depuis 1962, au fil des ans, ses poésies paraissent dans les revues telles que Asiles, Texture, bien que Texture maintenant n'existe plus, sous forme de numérique. Hein, c'est notre ami Michel Baglin, Arpa, Friche, Multiple. On salue au passage Henri Hurtubise. Insulaire, Thomas, Lieu d'être, Diérès, une excellente revue, hein, qui elle, alors au contraire, vraiment prolifère, une des plus grandes revues, je pense d'ailleurs, qui existe au moment où on parle, hein, la revue de Daniel Martinez, Diérès, Les Hommes sans épaules aussi, la revue Rue Ventura de Claude Caillot, Voix d'encre, Les Citadelles, etc. Alors, dans l'ensemble de ces publications, donc depuis cette année-là, on trouve également Des mains pigeonnières et d'herbes libres, avec une préface de Kléber Hédens. Hein. Je pense que les auditeurs de Radio Occitanie se souviennent certainement de Kléber Hédens, qui avait marqué la région, notamment par sa fougue pour le rugby. C'était aux éditions Guy Chambellan en 73. Depuis toujours chez Guy Chambellan, La grippe minaude, très beau titre ça, hein, La grippe minaude. Belle saison, avec une préface de Michel Déon. Michel Déon, donc, qui était à l'Académie française à cette époque-là. Entre jours, préface de Stéphane Beaumont, ça c'était aux éditions Le Tocsin des mots, ça c'est plus récent, c'est en 2002. Un train de paysage, préface de notre ami regretté, très regretté, Gaston Puel, aux éditions de José de Ségura, donc à l'arrière-pays. Claire-voix, avec une préface du poète Gérard Beauchollier, aux éditions NEB, qui continue toujours maintenant ces éditions. Au fil des nuages, toujours aux éditions de l'arrière-pays, donc on voit véritablement qu'il y a là une kyrielle de publications. On n'invente pas la neige, très beau titre également, qui a eu le prix Troubadour 2012, le prix Troubadour étant le prix de la revue Friche de Jean-Pierre Thuyat, et qui a été édité donc par Jean-Pierre Thuyat dans les cahiers de poésie verte. Et puis Regard croisé avec une préface de Guy Goffet, j'ai vu que tu aimais beaucoup Guy Goffet.
Oui, j'aime beaucoup son
écriture. Oui. Alors aux éditions de l'Atlantique de Sylvaine Arabeau. Et puis Rivière aux éditions La Porte, hein, ces petits fascicules qui sont très commodes parce qu'on peut les glisser dans une enveloppe. En 2013, et puis Je vous écris avec cette merveilleuse préface, je trouve, de Michel Baglin, aux éditions de l'Air en 2013, pour lequel nous avons eu le plaisir de faire cette émission au mois de mars, ici de cette année-là, 2013. Depuis, on te trouve bien sûr dans les anthologies, le coffret à poèmes de Jean Breton, aux éditions Saint-Germain-des-Prés, Visage de poésie, alors ça c'est Jacques Basse, qui t'a fait le portrait comme, oui. Comme à tous les poètes de France et de Navarre. C'est aux éditions Raphaël de Surtis et Appel aux riverains, Christophe Dauphin, aux éditions Des hommes sans épaules. Alors, après, Je vous écris, qui avait été publié à l'Air, on trouve dans la même présentation, donc la présentation, très belle couverture verte, un vert soutenu, avec un tableau de Monique Saint-Julien. Alors, dans Je vous écris, c'était des oiseaux. Dans Un jour de pluie à aimer, dans le recueil dont nous allons parler aujourd'hui, le dernier, c'est un chat. Voilà. Mais donc la présentation est identique, une présentation très agréable, des livres vraiment très bien faits, vraiment très agréables à lire. Alors, en regard de Un jour de plus à aimer, il y a, tu as mis un exergue, deux citations, une de Scott Fitzgerald et une de Camille Claudel. Scott Fitzgerald qui dit ceci, « Car c'est ainsi que nous allons, barque luttant contre un courant qui nous ramène sans cesse vers le passé. » Donc on est déjà, avec cette citation, on est déjà un jour de plus à aimer, on est déjà dans le mouvement, je dirais, de livre que l'on va lire, c'est-à-dire comment le courant, subrepticement, nous ramène vers le passé. Et ce livre ne peut être écrit que par quelqu'un qui a effectivement un passé. Je crois que quand on lit Un jour de plus à aimer, effectivement, on s'aperçoit que c'est un compte rendu aussi d'expérience qu'il va y avoir. Et puis la deuxième citation, c'est bien une citation de femme, de Camille Claudel. Il paraît que je sors la nuit par la fenêtre de ma tour, suspendue à une ombrelle rouge avec laquelle je mets le feu à la forêt. Voilà. Alors là, de nouveau, bon, on est dans cette espèce de folie quand même, hein, de Camille Claudel, la folie de la création, l'exaltation. Hein. Et donc il y a les deux. Il y a les deux, il y a à la fois cette barque qui nous ramène vers le passé, et puis cette apparition donc dans la nuit, des espèces de flammes qui vont pouvoir incendier la nuit. L'ensemble de ce livre, ce sont des textes assez courts. Il y a à l'intérieur de ces poèmes un poème de quelques vers seulement qui est dédié à Gaston Puel, et je trouve que en ces quelques vers il y a tout de Gaston Puel, on va le lire tout à l'heure, et en cette période où on demande des recensions, etc., des hommages à Gaston Puel, j'avoue que ce texte, moi, je l'ai dans ma mémoire et il me fait beaucoup de bien. Voilà, on va en parler. Alors Gaston Puel, parce que ça a été Gaston Puel, je me souviens que chaque fois que je voyais Gaston Puel, en particulier à Veille, il me parlait de Monique Saint-Julien. Et même bien avant que je ne fasse la connaissance, il me disait, mais comment ça se fait que vous ne connaissez pas Monique Saint-Julien ? Alors, l'ensemble ensuite de ces textes, Monique, ce sont aussi, on l'a dit au début, tu es peintre, et ce sont des tableaux. La plupart des poèmes qui sont dans ce livre, je les ressens comme des tableaux. Je les lis comme je regarderais un paysage qui me parle. Un paysage qui parle, c'est exactement ça. Il y en a d'autres qui nous entraînent vers autre chose que la contemplation. Où on pose, mais la contemplation qui est peut-être aussi une interrogation aussi sur ce qu'on voit, hein, qui se remet en cause peut-être ce qu'on voit. Alors si tu le veux bien, Monique, on va commencer. On va commencer par écouter. Alors, on pourrait peut-être aussi, tout simplement, j'ai parlé de ce texte sur Gaston Puel, le lire. Hein,
oui, bien sûr.
Et peut-être aussi dire, il y a quatre vers. Hein, la cloche de veille qui sonne me rappelle sa voix soucieuse de plaire, embusquée quelque part à l'ombre d'un chêne séculaire. Alors, si on connaît Gaston Puel, bien entendu, ces quatre vers, on les comprend totalement. Mais il faut dire que la cloche de veille, c'est parce qu'il habitait à Veille. Veille où Jean-Pierre Lassalle disait c'est insupportable quand on est allé à l'enterrement de Gaston Puel, il n'y a pas de bistrot. Il n'y a pas de bistrot. Ouais. Comment peut-on vivre quelque part où il n'y a même pas un café, où on ne peut pas se retrouver au café après un enterrement? Alors, la cloche de Veille, c'est là où il habitait, bien sûr, hein, dans ce village-là près de Lavaur, enfin un village, un hameau plutôt.
Ah, hein,
un hameau, oui, oui. Alors, me rappelle sa voix soucieuse de plaire. Ça, je trouve que c'est très bien vu, parce qu'il avait une très belle voix, Gaston Puel. Il cultivait cette voix,
précieuse,
ça c'est vrai.
Oui.
Voilà, donc il l'avait, mais c'était devenu comme les gens qui cultivent quelque chose. Il l'intègre tellement que ça devient très naturel.
Oui, oui, tout à fait.
Et soucieuse de plaire, c'était quelqu'un qui avait quand même toujours le souci de la séduction, Gaston Puel. Je crois, et ça c'est bien vu. Séduction d'abord parce qu'il était, il avait ce sens de l'esthétique, il a beaucoup travaillé avec les artistes, etc. Il était toujours d'ailleurs très élégant. Je me souviens, dans les années 60, il avait un foulard rouge, étincelant. Bon, il arrivait, il y avait un dandysme chez Gaston Puel. et embusqué quelque part à l'ombre d'un chêne séculaire. Là, il faut comprendre aussi, les auditeurs, le chêne séculaire, c'est le chêne sous lequel il est enterré dans sa propriété, puisque c'était son vœu, et qu'il a réussi. Hein. C'était quelqu'un d'obstiné, Gaston, et quand il voulait quelque chose, il l'obtenait quand même. Donc même ça, il a obtenu, ce n'est pas facile d'être enterré actuellement, d'avoir l'autorisation. Il a réussi à l'avoir, et donc il est effectivement sous ce chêne qu'il avait désigné, et qui va grandir en même temps que, nous l'espérons, lui aussi, sa poésie et sa légende, ça va grandir aussi. Voilà, donc très très beau texte donc à Gaston Puel dans ce livre. Mais après, on retombe sur des tableaux, donc on va écouter, si tu le veux bien,
Tant d'allées et venues de saison, laissées devant la porte, s'ébrouant, s'endormant, ventre au soleil comme un chien, et de toutes ces simagrées de pluie, mélopées à attendrir le cœur du plus dur des hommes, ne reste que quelques nuages dans l'abandon d'un ciel hivernal. Les paysages filaient à l'anglaise, vignes chevillées les unes aux autres, ponts, chemins, prairies avalées, trains colorés comme un jouet d'enfant, clarté voyageuse, telle de lumineux insectes, une rivière coulée, glissée, s'insinuait à travers une terre gorgée d'eau. Un pré, une chèvre au piquet, regarde passer les trains, les mouchoirs dansent aux fenêtres, rempli de confidences, le ciel joue à pigeon vol avec les oiseaux.
Ça, c'est un tableau.
Exactement.
C'est un tableau.
Tout à fait, tout à fait. Je veux dire...
C'est très difficile de ce que tu fais en définitive. De peindre avec des mots comme ça, c'est... Toi, tu le fais avec naturel.
Oui, en fait, oui. Ils me poussent, c'est pas moi qui dirige.
Oui. Hein. Oui.
Mais ils ont une force qui est obsédante.
Oui, mais je crois que c'est ça quand même, être habité de poésie, c'est ça. C'est-à-dire que toi, ça te semble... Oui, ça vient...
L'un et l'autre.
Oui.
Là, je viens de terminer un coq, tu verras qu'il est super, je fais encadrer... Oui. Il est plein d'oiseaux, plein de fruits.
Mais c'est le même mouvement. C'est-à-dire,
oui,
ça,
c'est la même poésie. Oui. C'est poétique.
Oui.
Ce n'est pas une peinture ni abstraite, ni trop classique.
Oui.
C'est une poésie poétique. C'est une poésie, une peinture poétique.
Et de comment on appelle ça, de célébration.
Aussi, voilà.
Voilà c'est le mot poésie de célébration.
Oui.
Oui. C'est... Et en même temps, bon, il y a... Ça dégage cette célébration. Je pense que, à part quelques textes, on est dans cette célébration. Mais c'est-à-dire, moi, ce que je ressens dans cette célébration, c'est énormément de sérénité. Voilà.
Oui.
On sent sourdre une petite inquiétude à un moment donné.
Oui.
Il y a une petite inquiétude qui est souvent sous-jacente.
Le temps qui m'impressionne.
Voilà. Le temps, parce que là, vraiment, on est devant quelque chose sur lequel on n'a pas de prise, ce que tu sembles dire. Hein.
Et puis ces amis qui partent, cet enfermement, on sent petit à petit.
Mais après, quelle sérénité on dit, bon, mais qu'importe, puisqu'après tout, il y a la chèvre qui est toujours aussi belle. Dans le pré, il y a le chat qui est toujours aussi heureux.
Oui.
Il y a les oiseaux qui vont chanter.
Ça, c'est quand je suis très heureuse, je pétille, j'ai besoin de...
Oui.
C'est une vie qui explose.
Oui.
Voilà.
Et ça fait du bien de lire ça. Ça fait du bien aussi.
Je crois. Oui. C'est ce qu'on me dit quelquefois.
Oui. Parce que Un jour de plus à aimer, le titre déjà, lui-même, il y a une nostalgie dans le titre.
Une nostalgie, oui.
Il y a une nostalgie.
Oui.
Et dans les... recueil donc que l'on reçoit, je pense à Marcel Migosi par exemple, qui parle beaucoup de ça, du temps qui passe, de la vieillesse, qui s'interroge beaucoup sur comment tout ça va finir. Il y a vraiment une difficulté, il y a une tristesse. Mais chez toi, ça n'apparaît pas vraiment.
Oui.
Il y a toujours la vie qui est plus forte que tout ça. Une envie de vivre.
Oui. En fait, voilà. Je ne peux écrire que si je suis heureuse. Oui. Même si j'ai des abattements, même si j'ai des moments tourmentés, comme tout le monde, je pense. Mais c'est quand je suis heureuse que j'ai besoin d'écrire et de dire ce que je pense, d'exploser, oui, d'être prise par la vie, par la nature.
Et donc on a des poèmes qui sont des poèmes à l'image un peu de ces tableaux là, hein, c'est donc un peu luxuriant où la vie apparaît dans sa beauté, quoi. Alors on va continuer si tu veux bien.
Celle-là, vous avez si bien écrit, si bien chanté, éclaboussé de sève rieuse les ciels, rendu si juteuses les fines agapes de l'été, les rencontres de la terre, de la mer, que me reste-t-il à dire, à inventer, à ronronner, qui soit neuf, frais, à se mettre sous la dent, laisse un goût d'herbe tendre, comme celle de l'Inde de la Fontaine, ou l'image de votre paradis, la ruée de vos jours, l'oubli du temps, les cerises qui roulent dans la bouche, rouges et tendres comme un parfum d'enfance. Vous avez si bien aimé, courtisé, fredonné l'amour frileux qui s'échappe lestement comme un chat entre deux portes à l'orée du printemps. Que me reste-t-il à dire ?
Alors ça, c'est un texte qui est dédié à Guy Goffet. Hein.
Oui.
Je crois qu'il faut le dire pour le comprendre.
Oui.
Mais, alors oui, là aussi, il y a une célébration. C'est un texte aussi de célébration, oui. Parce que tu célèbres un poète, vraiment.
Oui,
hein, c'est-à-dire,
oui.
On sent vraiment la...
oui. Oui.
Mais on sent l'admiration.
Oui,
on sent vraiment l'admiration.
Absolument.
Mais en même temps, je ne suis pas d'accord avec ton interrogation. Que me reste-t-il à dire ? Moi,
oui.
Je dirais tout.
Oui, oui.
Que me reste-t-il à dire ? Tout.
Oui, c'est un peu d'humour.
Effectivement, oui. 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 Alors, parce que c'est vrai qu'il a, Guy Goffet a bien dit les choses, bon, comme tous les bons poètes, je crois, si les poètes ne disent pas bien les choses. Mais rien n'est jamais terminé. Et tout reste à faire, je crois. Et en poésie, c'est vrai. Ceux qui disent, mais qu'est-ce que je vais pouvoir écrire ? Comme ceux qui disent, qu'est-ce que je vais pouvoir peindre ? Quand on voit tout ce qui a été fait avant moi, ben non, justement, rien n'est terminé.
Oui, oui.
Tout est encore à finir. Hein. Je crois que le monde n'est jamais créé. Le monde est toujours en construction, il est toujours...
Oui.
À perfectionner.
Oui. Encore que Gaston Poel me disait, quand on a écrit dans sa vie quelques beaux poèmes.
Ah oui, ça c'est autre chose.
C'est presque,
oui,
presque suffisant pour authentifier un poète.
Oui, oui, oui.
Enfin.
Oui. Oui. Rousselot disait, Dieu sait s'il a écrit quand même, Rousselot. Il était en colère parce que René Guy Cadou, qui était mort à 31 ans, laissait une œuvre qui effectivement est une œuvre qui survit. Et lui, qui avait vécu plus de 90 ans, me disait de tout cela, il va certainement ne rien rester. Tout ça va vraisemblablement disparaître. Voilà. Et c'est terrible, ça. Et quand il disait ça, il y avait chez lui une profonde de tristesse et presque de la rancœur, d'ailleurs. Ouais. Et c'est pourquoi ce que tu dis est vrai, ce n'est pas dans l'abondance.
Oui.
Rimbaud a une œuvre qui n'est pas grand-chose, mais qui va rester pour l'éternité, vraisemblablement.
Oui. Et dépasser.
Oui, oui. Après, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui va rester de cela ?
Voilà.
Mais il ne faut pas s'en préoccuper.
Oui, on se fait plaisir, voilà. Hein, aussi.
Voilà. Alors, on va écouter encore, s'il te veut bien.
L'aube blanche, des fenêtres aussi pieusement ouvertes que de vieux micelles, dépasse à temps de prendre le frais, et dans le jardin, aux murs corsetés de mousse, se ferment les belles de nuit d'un autre âge. Dans l'allée fredonnante de Merle, les platanes, beaux comme des statues, les nuages, semblables à des rêves, abandonnés aux accoudoirs du jardin. Ici et là, c'est toujours la même romance. Des arbres convolant juste noces avec le printemps caressent la terre, les nuages, les prairies, telles de claires et rieuses rivières. Tandis qu'un vent trublion s'agite de l'enclos du bois et qu'un coucou bien né lance ses vocalises à travers un ciel gris de paradis perdu. Dans un champ clôturé de silence, un cheval porte la grâce d'une ballerine. Terre rouge, frisson d'herbe, toit éconduit par le lierre. Sur les berges oisives d'un lac, un héron, à l'immobilité trompeuse. Le jour pose des moulinets de couleurs, éclats qui virent d'un arbre à l'autre. L'acacia mûrit sa blancheur. Les forêts battent tambour. La ligne bleue des pulmonaires roule sur le talus. Le ciel est bien gardé. La plus petite cellule de vie vibre, s'anime, bourgeonne, pépinière tintante de fruits sur l'autel clair du printemps. Tant de reliques en moi, crête de vigne sur les collines, ciel au bleu suranné d'œufs de grive, appel bègue des brebis longeant le pré. Dans les mains douces de la mare, les bêtes viennent boire. Leur déjeuner se marie avec la pure lumière du jour. À Michel Moret. Pourquoi faut-il prendre le ciel à témoin, s'époumoner à chanter l'été, puisqu'il suffit d'une note de cigale, d'un coq ténor à donner le vertige, d'un potager rebondi d'aneth, de livèche et d'une main alerte découvrant un chou-fleur blanc comme un sein, pour que Juillet s'installe en cavalier seul, court, traverse, saute mille obstacles, vergers, chemins, sentiers battus, ruisseaux savamment retroussés, tandis qu'un marivaudage d'averse martèle les luisants fusains d'un rythme bien ordonné de musique. Est-ce le vent qui cause à notre oreille, tambourine à la porte, caresse la chair du jour, suivre les rires des enfants dans le pré d'herbe grandie, quand la vie promène sur les vitres le profil couronné de l'été. Un souffle, un courant d'air, joue avec les rideaux, éveille le jardin assoupi. Une échappée, une respiration, une orangerie de senteurs nous inonde, se jette à notre cou. L'air transparent, comme une toile abstraite, cherche à préserver en notre mémoire son pouvoir de vie. Porte beau le cerisier fleuri, une blancheur l'illumine d'un doigté de peintre. Oh, le tendre appel du verger, quand il remue en nous de nostalgiques cueillettes. Et nous allons pousser par le temps, que rien ne peut arrêter. Ni d'imprévisibles orages, ni quelques fantasques rafales, ni rivières, ni rigoles, ni flaques à sauter à pieds joints les jeudis de notre enfance, ni terre, montagne, ombre des forêts à apaiser la bouche assoiffée, ni lune se pavanant dans le ciel, les soirs bleutés d'ivresse. Fragile bateau, nous traversons la vie, menée de voyages en voyage infini.
On peut s'arrêter sur ça, ces deux derniers vers là, frangis de bateau, nous traversons la vie, menus de voyage en voyage infini. Bon. L'idée, on sort un petit peu de la contemplation hein, pour avoir une assertion un peu sur la vie. C'est-à-dire, nous sommes quoi ? Fragiles bateaux. Nous sommes des fragiles bateaux. Hein. Nous traversons la vie, menés de voyage en voyage infini. C'est-à-dire, on n'arrête pas de voyager. Mais le voyage au voyage infini, le voyage, c'est ce qui va d'un point à un autre point, mais qui revient après, au point de départ. Donc, de voyage en voyage, c'est-à-dire des allers-retours permanents.
Oui, de saisons qui reviennent, des...
Voilà, ça revient, on revient.
Les enfants, oui. Oui. Une ronde de vie, une ronde oui. De situations, d'amour, de tendresse, d'amitié, de rencontres, d'éphémères qui durent plus loin.
Mais qui revient, parce que le voyage, le principe même du voyage, je ne sais plus avec qui on en parlait récemment, au cours de cette émission, on disait que le voyage n'avait d'intérêt, bien entendu, que parce qu'il y avait le retour.
Oui.
Hein, sinon, c'est l'errance.
Oui, oui. Voilà. Ah, oui.
Et dans ce que tu dis, fragile bateau, nous traversons la vie, mener, ce n'est pas d'errance en errance. Hein, non. Tu as dit de voyage en voyage.
Voilà, oui, oui, bon. Oui.
Ça me semblait important. C'est-à-dire, ce n'est pas une vision, la vie n'est pas quelque chose qui nous entraîne vers on ne sait pas quoi, c'est des voyages, c'est-à-dire que on va faire des expériences et on revient, et puis on repart vers des expériences et on revient. C'est un retour, je dirais, des retours d'expérience permanents. C'est ce que tu as voulu
tout
dire.
Tout à fait, Christian.
D'accord. Bon. Alors, on va poursuivre.
Tu es un bon psychologue. Tu es un bon psychologue, dis-moi. En plus d'être poète.
Alors, on va t'écouter. Heure après heure.
Heure après heure, la nuit. Vol d'étoiles, destin de lune. Sur les portées glacées des vagues se meut un rituel de rouage. Il faut bien aimer l'aube. Les insomnies d'un coq réveillent les abois des chiens. Le vent semblant cette tue fait le mort comme un renard. Il est des aunés qui nous abreuvent avec la poussée des jours qui frappent du pied à la porte. C'est Amos Boulanger. Des traces glissent au pas de course. Abandon des étoiles au petit matin. Bruit époumonné d'un train de passage. Bouffonnerie de nuages prenant le frais sur le carreau, tandis que la joie délirante d'un ciel bleu claque des doigts, un jour de plus à aimer.
Voilà, alors là aussi on va faire une petite pause sur ce texte. Donc ce texte est celui qui va donner le titre du livre,
oui, hein, oui,
Un jour de plus à aimer. Et c'est bien, j'aime bien ces livres de poésie où le titre est donné par un des vers. C'est bien. Et bon, mais tout est là. Hein. Je crois que tout est là dans ce poème. Un jour de plus à aimer, c'est-à-dire la contemplation, des traces glissent au pas de course. Donc, tu es toujours l'observatrice, celle qui regarde,
oui.
Qui contemple, mais qui contemple, je dirais, en cogitant quand même toujours. Hein. C'est un peu pas, il y a pas une, c'est la contemplation. Surtout chez toi, ce n'est jamais une contemplation passive. Hein, on peut être contemplatif, c'est comme la méditation. Ça ne veut pas dire qu'il y a là quelque chose de totalement passif. On est pénétré par les choses, mais c'est une action. Cette façon de se laisser pénétrer par les choses, c'est agir. Hein, c'est-à-dire, on va essayer de ce que tu regardes, de ce que tu vas pouvoir dire. D'ailleurs, je pense qu'au moment où tu regardes, tu penses déjà comment tu vas ou le peindre ou l'écrire, certainement. Parce que, bon, je me dis, c'est quand quelqu'un a ce sens de la contemplation, cette contemplation active, c'est évidemment toujours intéressé, c'est en vue d'en faire quelque chose. Hein. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas, moi, quand je te lis. Les traces glissent au plat de course, abandon des étoiles, petit matin, bruit et poumonné, tiens. On entend aussi, on voit, on entend, bruit époumonné d'un train de passage, buffonnerie de nuages prenant le frais sur le carreau, tandis que la joie délirante d'un ciel bleu claque des doigts. Très belle image, ça. Hein, la joie délirante d'un ciel bleu claque des doigts. Là, on te retrouve aussi dans cette, ce que tu as dit tout à l'heure, en disant, moi, je suis content. On sent cette joie de vivre. Hein, ces instants, voilà, de joie de vivre, ou qui peuvent naître de presque rien.
Oui.
Mais je crois que c'est ça, d'ailleurs, ce qu'on appelle le bonheur, s'il existe.
Oui, oui.
C'est avoir ce regard que tu as, c'est-à-dire cette satisfaction devant le monde, devant la vie, et en disant, mais c'est merveilleux quand même ça, voilà. Donc, un bleu, le bleu du ciel, arrive à t'enthousiasmer au sens exact du terme, hein, porter en soi un Dieu, être heureuse, quoi. Avoir cette, cette exaltation de l'instant. Te comble dans cet instant-là. Hein, c'est comme ça que...
Et en fait, j'ai l'obsession du jour.
Voilà.
Je n'aime pas la nuit. Oui. Alors, je dors, tant mieux, mais quand on dit que je ne dors pas, j'ai besoin de lire ou de travailler mes écrits.
J'ai besoin de la lumière.
Le jour, de suite, dès que je peux, parce que c'est la vie. C'est la vie.
Oui, oui.
Et c'est là où je peux écrire, où je peux peindre, avec les couleurs, les bruits, les sons. Je revis, tu vois.
Mm-hmm. Donc, un jour de plus à aimer.
Voilà.
Voilà. Voilà. Oui. C'est à la fois un jour de plus à aimer, c'est à la fois j'ai passé un jour de plus à aimer, mais c'est aussi je demande un jour de plus à aimer. C'est dans les deux sens. On va poursuivre la lecture.
Sur la route, des arbres troubles faites s'agitent, des escapades de prés, des jeux de rivière. Des forêts à donner le vertige, châteaux, églises, maisons, main dans la main, terre truffière à s'agit de silence, terre maternelle, terre qui ruisselle en nous comme l'image sainte d'un souvenir.
La terre, c'est important aussi. Dans
la terre.
La terre,
Oui.
Dans le paysage, la nature, tout ce qui est l'extérieur, ce que tu disais, c'est te tard d'être dehors à la lumière, quoi.
Oui. Hein? Oui, le jour.
Oui, le jour. Mais et la nature.
Et la nature.
Oui.
Vous voyez, Gaston me disait, vous êtes un peintre, une femme peintre assez rare de la nature.
Oui, c'est vrai. Oui, oui.
Bon, sinon, un peu.
On poursuit.
Écoute, nous poursuivre les cris des chats et la sarabande des vieux rêves dans les bordures de la nuit. Une odeur de solitude campe. L'OTAN secoue les rochers de chasselas, apprivoise les dunes, roule les vagues, se pâme au passage du jardin où s'entêtent à refleurir les arômes.
Alors, l'OTAN, vous vivez dans le Lauragais, Bernard et toi.
Oui.
Donc l'OTAN, je pense qu'il souffle là-bas, non?
Il souffle et puis... Du côté du Tarn aussi, il soufflait beaucoup.
Oui. On poursuit.
Peut-être la vie fut-elle semblable à un jardin, travailler patiemment, jour après jour, terre hercée, herbe arrachée, brûlée, ramenant les cycles des saisons, des courtoisies de flocons volages, aux étés affriolants d'iris bleus, tandis que sous une débâcle de fruits mûrs, s'éprenaient les insectes et que courait le long d'un étang un lumineux bavardage de rainettes. Retrouver l'enchantement de juin, un mouvement l'un après l'autre, la lumière sur les prés, l'ombre à s'emmailloter dans sa ferveur, et si précieux le ciel, sans aucun défaut de nuage. À la pointe du jour, dont les chants trempés de lumière, heures ferventes de joie, corneilles chuchotant leurs secrets, vite envolées à la lisière des pins. À Jacqueline et Michel Baglin, Valser Bolaire, c'est dans le Roussillon.
Oui.
Lentement, tout devient fête. La marche sur le sentier empierré, les clartés nouvelles nées dans les frênes, le ciel promenant sa pompe de nuages, illumine la sombre forêt de résineux. Paraissent sur 100 églantiers, sur 100 genêts, où les perviers chassent une proie muette. Et des moineaux, près d'une douce folie, s'épouillent dans un bain de poussière. Au loin, la voix grondeuse du torrent, fêlure entre les hautes maisons de pierre, torrent qui escorte le vent, les odeurs, les truites, enserrées parfois par des mains braconnières. Et nous allons droit devant nous, troussant un paysage et un autre, aveuglés de soleil, inondés d'émoi, prenant le ciel à témoin de notre joie irréelle.
On va faire une petite pause sur ce texte quand même.
Non.
On va faire une petite pause là, sur ce texte. Alors, Jacqueline et Michel Baglin. Donc, Michel Baglin est poète. Jacqueline est sa femme. Et on voit là, vous êtes baladé une journée, on vous voit dans la,
oui,
dans la montagne, le long d'un torrent. Hein,
oui, en montagne.
Voilà,
oui,
en montagne.
Oui. Près de Sayagouz, près de Mont-Louis,
oui,
enfin,
oui, oui,
la région,
oui, oui,
de Roussillon.
Oui, oui, c'est-à-dire cette région après Font-Romeu,
vers Font-Romeu. Voilà, exactement, hein, à la frontière, oui, de l'Espagne.
Voilà, et puis Cerdà.
Voilà, oui, exactement.
Alors, c'est une très belle région, hein, et je crois que Michel Baglin aime bien aussi.
Oui, il aimait ces coins, c'est, oui, grâce à,
oui,
lui.
Oui.
Je
ne
le connaissais pas.
Oui, oui, oui.
Mais alors, ce village est resté dans son jus.
Oui.
Il est d'une force.
Oui.
C'est des maisons le long d'un ruisseau, un torrent terrible. La nuit, Baglin me disait, ferme, ouais, la fenêtre, moi je veux dormir. Et c'était d'une impétuosité, oui, incroyable. Moi, j'aurais dormi pour entendre,
oui,
ce,
oui,
cette force,
oui,
vraiment. Oui. C'était magnifique, magique.
Alors là, on sent la joie, quoi.
Ah oui.
Hein, c'est une vraie joie.
Ah oui.
C'est une vraie joie.
Ah oui.
Et c'est une joie dans ce texte. C'est une joie que l'on sent partagée. C'est-à-dire que il y a la joie du lieu, que procure le lieu, d'être dans ce lieu.
Oui.
Mais plus que ça, on sent que c'est la joie aussi de pouvoir partager.
Exactement.
Hein, ce lieu-là.
Avec,
hein,
deux amis,
voilà,
que j'aime beaucoup.
Voilà, voilà.
Voilà.
Ouais.
Donc, et en même temps, j'admire, oui, le poète.
Témoin de notre joie irréelle.
Voilà.
C'est une poésie de la joie, en définitive. Hein,
oui, mais elle est plus longue que ce que, oui, je fais habituellement.
Oui.
Parce que ça a été quelque chose, j'allais dire, d'essayer de revoir,
oui,
de m'en pénétrer.
Oui.
C'est moins peut-être spontané qu'un poème qui est plus court.
C'est plus narratif.
Exactement.
Quelque chose de plus narratif.
Exactement.
Oui, oui,
oui,
oui. Alors, on va continuer. Donc, il faut dire, c'est vrai que tes poèmes sont des poèmes courts, hein, très resserrés, intenses. Hein, il y a toujours une intensité dans la recherche du vocabulaire précis, une langue très épurée.
Oui.
Hein, par exemple, ce qu'on a lu sur Gaston Pell, il y a 4 vers. Là, celui que j'ai sous les yeux, là, il y a 4 vers aussi. Le vent est revenu, poussant des jérémiades, comme le chant enrhu du voisin qui affole si bien nos nuits.
Oui.
Bon, en même temps, il y a tout, quoi. C'est-à-dire ce que peut être exaspérant, un chat qui miaule,
ah,
toute,
oui,
la nuit.
C'est ces souvenirs, voilà, qui sont en nous.
Oui, oui. Et qui est... ne demande que ce que ces 4 vers en définitive et pas d'autres adjectifs.
Oui.
Il y a là.
C'est plus pur.
Ah. Oui.
C'est une photographie. C'est,
oui,
des flashs.
C'est ça. C'est,
voilà,
des flashs.
Tout à fait. Si on allonge trop, ça devient.
Ah oui, oui, bien
on s'essouffle.
Bien sûr.
On veut trop en mettre.
Alors on continue.
La chaleur m'ébat un enclos de silence. Après-midi repu, vivier blond de soleil, chape d'ombre des arbres. Dans le bois, un fouillis d'insectes bruit. Une saison convoitée par mille chants de cigales. Un soleil a séché les marées. L'orage égaré les nuages. Chassé corneilles et faucons. Dévalé ponts et écluses. Se glissant à coups de souffle aboyeur entre portes et fenêtres. Saison parfumée des jardins bobolis. Clarté aveuglante de ses fontaines. Temps fugueur, traversé à pas de géant. La vie n'est-elle qu'une mascarade, un jeu d'échecs où la main déplace les rêves?
Alors, là on s'arrête un peu parce que la vie, là il y a une interrogation. Il y en a peu d'interrogations dans ce livre, mais il y en a quelques-unes. Hein,
quelques-unes.
Voilà, quelques-unes. Oui. Bon, celle-ci est, à mon avis, quand même la plus signifiante du livre. Hein. La vie n'est-elle qu'une mascarade, un jeu d'échecs où la main déplace les rêves. Bon, des vers, très beaux vers, hein, où la main déplace les rêves. Bon, belle image. Mais en même temps, une interrogation terrible. La vie n'est-elle qu'une mascarade, un jeu d'échecs? C'est-à-dire, on est dans le faux-semblant.
Voilà. Oui, oui.
Alors, ça c'est la question, mais quelle est la réponse?
La réponse est difficile parce que c'est vrai qu'il y a des moments qui sont quand même douloureux dans la vie. Et il y a des choses qu'on tait quand même, qu'on n'en parle pas, on les efface. Est-elle quelque chose de telle qu'une mascarade? Est-elle que quelque chose comme un carnaval, comme quelque chose de... comme un jeu, comme un...
sur lequel on n'aurait pas prise?
Peut-être. Par moment.
Oui. Oui. Alors, on va continuer. Mais on va peut-être répondre après à cette question par une autre question que je vais te poser. Mais on va continuer quand même quelques lectures de texte.
Annelie Revaz. Des bateaux voguent, des mouettes sifflent. Le temps survit par le tic-tac de la pendule, picorant le silence de la chambre. Sans un sou de rafale court, affûtent les cris des pies chassées à coups de lance-pierre. L'écho les ramène au plus profond de nous. Le soir venu, on entend portes et fenêtres se fermer et les lampes pleurent rouler dans la gorge des chiens.
Suivant,
il me reste à aimer les grands rideaux veloutés des bois, les vols magiques des alouettes. Tantôt les mains frileuses du matin lèvent le badinage d'une pie et les cris d'un gère en colère poursuivent une ronde d'enfants. Instant qui m'abreuve d'un doux assagi de vie passagère. À mi-chemin du jour, le silence d'un lierre grandit. Un ciel touffu de nuages, des toupies de peupliers, et sur l'herbe froissée, remuée par la bise, une balançoire danse. Un train fugue sur le pont du diable. Des platanes harponnent le ciel jusqu'en chatouiller l'obligeance de sa clarté. Bosquets, avoines, champs de pommes de terre, agressés de doriforts que ramassent les enfants, une boîte à la main, joie serinée, peinte de rumeurs d'abeilles, de roueries de chats tapis dans l'ombre, quand le jour buissonne d'hirondelles.
Très beau tableau là aussi. Alors je vais, puisque il nous reste 3 minutes, revenir sur cette question. La vie n'est-elle qu'une mascarade, un jeu d'échecs où la main déplace les rêves? Je vois 2 réponses quand même à ça, à laquelle tu apportes. La première, c'est tout simplement la poésie, c'est-à-dire pour lutter justement contre cet effet de mascarade, le fait de peindre, le fait d'écrire. C'est une réponse.
C'est une exutoire aussi.
Oui, c'est une victoire, mais ben, c'est une action.
Une aide,
c'est
bien, oui. Une force, oui.
Oui, mais c'est une volonté. C'est,
ah,
tu
oui.
affirmes là une
absolument,
volonté.
Absolument.
Voilà, une volonté.
Oui, oui.
Et donc, que représente dans l'époque que l'on vit, que représente la poésie actuellement?
Ah, dans ces temps troublés, endeuillés, je crois que la poésie peut apporter un contre-pied à la peur, un apaisement. Elle nous pousse à aller de l'avant. Et je pense à la phrase de Paul Valéry, « Le vent se lève, il faut tenter de vivre. » Et ça, je crois, c'est une phrase que j'aime beaucoup parce que malgré les difficultés qu'on rencontre dans la vie, les problèmes qui se lèvent, il faut quand même continuer à vivre, il faut continuer à avancer. C'est une force, enfin c'est en soi, hein, c'est en soi.
Très 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 beau vers hein, de Paul Valéry,
oui.
Et bon, on n'en
oui, oui,
dira
oui.
Jamais,
oui, oui.
Jamais à quel point il a raison de dire ça.
Oui.
Et on pourrait, si tu le veux bien, il reste une minute, donc terminer aussi sur un très beau texte, qui est un texte, d'ailleurs c'est le dernier du livre, qui est le texte à Bernard.
Oui, oui.
Voilà. Qui est un texte d'espoir absolu.
Oui, oui. Emmène-moi au bout du monde. Un jour de vent qui mène l'ennui, bouscule la vie en tous sens. Mort, martèle, déshabille la belle ordonnance de l'allée, ces boniments de piches chasseuses de nid. Emmène-moi dans un train au ventre chaud, à la crinière de fumée dansante, au roulement de tambours rageurs. Un train à l'arrêt devant chaque gare, me rappelant un récital interrompu.
Merci, Monique Saint-Julia.
Merci.
Monique Saint-Julia, donc un jour de plus à aimer, aux éditions de l'Air, 14 euros, donc en vente dans les bonnes librairies.
Merci à voilà. Toi, Christian, je voulais quand même te le dire, et parce que je suis touchée, et puis je trouve que tu es admirable dans cette situation de... Tu parles admirablement,
merci.
Tu es chroniqueur, tu es poète, tu es plein de psychologie, tu es merveilleux, écoute.
Merci Monique. Alors vous retrouverez tout ceci sur notre site les-poètes.fr. Voilà, Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine, à Dixiast.
Avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur souffle dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les prairies d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme elle est.